Cher Raphaël, le premier événement de campagne pour le nouveau tandem Joe Biden-Kamala Harris.
Ça se fait attendre, c'est d'une minute à l'autre que ça devrait commencer au Delaware, l'état d'origine donc de M. Biden. Ça suit, on le sait, l'annonce extrêmement médiatisée de Kamala Harris comme colistière, comme candidate vice-présidentielle.
Un beau symbole de réconciliation aussi, hein, parce qu'elle avait été dure avec lui dans un des débats.
Oui, tu as raison. Et ce qui sort justement depuis les dernières heures, c'est ce sont certains reportages de l'intérieur de la campagne qui expliquent un petit peu comment on est arrivé à cette espèce de réconciliation-là, tout le jeu de coulisses qu'on a eu, et ça devient très clair. Écoute, c'est un petit peu un secret de polichinelle, Marc-Claude, que la considération première, c'était, disons-le très clairement, la race de la candidate. Le Parti démocrate, ça fait longtemps que c'est le champion de ce qu'on appelle la politique identitaire, là, c'est-à-dire faire des appels très clairs, là, des électeurs sur la base de leur appartenance à un groupe minoritaire ou historiquement marginalisé, que ce soit les femmes ou les noirs. Là, évidemment, avec Mme Harris, clairement, on a les deux. Mais il y avait surtout une reconnaissance très large au sein du Parti démocrate qu'on ne voulait pas risquer la grogne qui s'accompagnerait suite au décès de George Floyd au Minnesota, évidemment, de nommer une candidate blanche. Et ça, c'était vrai pour M. Biden et c'était vrai de façon très intéressante également pour certaines des autres candidates potentielles que Biden a activement considérées et interviewées. Écoute, il y a un reportage très intéressant de l'Associated Press qui fait état de la gouverneure du Michigan, Mme Whitmer, qui était, je dirais, dans le top 5 ou 10, là, selon à peu près tous les observateurs, pour être la colistière de M. Biden, qui est caucasienne, donc qui est blanche, et qui elle-même s'est retirée de la course en disant, écoutez, vous devez y aller avec une femme de couleur.
Là. Raphaël, je t'interromps, parce que là, ils sont en train de déposer le discours sur le lutrin. Alors, c'est clair que ça ne s'attardera pas. Là.
Ça s'en vient. Ça s'en vient.
Dommage qu'on ne puisse pas faire toute cette description en direct, mais bon.
Il va y en avoir d'autres.
Écoute, il a l'air sur un... M. Biden, en ce moment, est assis bien tranquillement sur une chaise de ce qui ressemble à un gymnase.
Oui, exact. C'est un gymnase. Et écoute, on pourra pas effectivement faire la description aujourd'hui, mais on en a quand même pour 2 mois et demi de campagne. Ça a beau pas être une campagne traditionnelle, ça risque quand même pas d'être la dernière sortie conjointe.
Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de cette première rencontre entre les deux.
Absolument.
Maintenant, retour sur 2 sorties du président Trump qui ont fait réagir. Est-ce qu'il y a des sorties du président Trump qui ne font pas réagir? Ça serait ça la grande question. On voudrait faire la liste de ce qui n'a pas fait réagir.
Ouais. Mais en fait, c'est une question trop facile, parce que la réponse, tout le monde la connaît.
Eh oui, c'est ça.
Écoute, au début de la présidence Trump, le président avait interpellé une représentante du Dakota du Sud qui s'appelle Kristi Noem, représentante à la Chambre, et lui avait lancé comme ça, et là je cite Donald Trump, « Savais-tu que c'est mon rêve d'avoir mon visage sur le Mont Rushmore? » Et Mme Noem, la représentante en question, était un petit peu partie à rire parce qu'elle était convaincue qu'il plaisantait. Et en fait, Donald Trump, à l'époque, au début de sa présidence, en 2017, en parlait publiquement aussi en prétendant que ce n'était évidemment que des blagues. Et à cet effet, Marc-Claude, écoutons un instant le président Trump en juillet 2017.
But here's the problem. If I did it joking, totally joking, having fun, the fake news media will say he believes he should be on Mount Rushmore. So I won't say it, okay? I won't say it.
Ouais, donc, ça c'était 2017.
Ça c'était 2017. Et à l'époque, ce qu'il disait, le président, pour résumer, c'est que ben, même si je fais des blagues comme quoi j'aimerais ça être sur le Mont Rushmore, les médias qui répandent des fausses nouvelles vont faire à croire que je suis vraiment sérieux puis que je veux vraiment avoir mon visage sur le Mont Rushmore. Bon. Et là, le punch de l'histoire, Marc-Claude, c'est qu'est-ce qu'on apprend il y a quelques jours? Ça s'invente pas, là. Ça ne s'invente pas comme histoire. Le personnel de la Maison-Blanche aurait fait des démarches auprès de la gouverneure du Dakota du Sud pour ajouter des visages de présidents sur le Mont Rushmore, démarche très sérieuse, des visages qui, on s'entend, incluraient évidemment celui du président actuel. Et le punch ultime de l'histoire, Marc-Claude, qui est plutôt la nouvelle gouverneure du Dakota du Sud? Une certaine Kristi Noem. Mm. Autrement dit, la même représentante à laquelle Donald Trump prétendait faire des blagues au sujet de sa présence sur le Mont Rushmore, et la même personne, maintenant devenue gouverneure de l'État, à laquelle son personnel politique s'est sérieusement adressé pour qu'elle considère l'idée.
Ouais. Mais ce qui est fascinant, mais vraiment fascinant, c'est que n'importe qui, jusqu'à maintenant, qui fait une erreur, un personnage public, va s'empresser le lendemain soit de présenter des excuses ou de corriger l'erreur. Quand même qu'on lui dirait, vous avez dit ça en 2017, c'est pas grave.
Et sais-tu quoi?
C'est pas grave, c'est jamais grave.
Sais-tu ce qui est génial dans ce que tu viens de dire? C'est que ça me permet de faire un lien direct avec la deuxième histoire touchant Donald Trump dont je voulais qu'on se parle. Ça, c'est un petit peu plus tôt cette semaine, en point de presse. Donc, on écoute le président Trump qui, en évoquant la COVID-19, fait référence à la grippe espagnole et déclare ceci.
The closest thing is in 1917, they say, right? The great pandemic certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people. Probably ended the Second World War. All the soldiers were sick.
Donc, la pandémie... Attends, il faut mettre le contexte.
Vas-y.
La pandémie de 1917 aurait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, surtout qu'elle a fini en 2017, en 1917, la Deuxième Guerre, la Première Guerre mondiale.
En 1918, c'est-à-dire que la première a fini en 1918, 18. La deuxième en 1945. Et la pandémie dont il est question, la grippe espagnole pour pas la nommer, était en 1918 et non en 1917. Donc là, j'entends déjà des gens réagir en disant « Mais qu'est-ce que ça change? Vous cherchez des bébêtes, on sait ce qu'il voulait dire. Il s'est trompé d'une année pour la pandémie. » Puis clairement, il faisait référence à la Première et non à la Deuxième Guerre mondiale. Or,
ce à quoi tu réponds?
Ce à quoi je réponds, ceci, c'est révélateur. Parce que la comparaison avec la pandémie, entre guillemets, de 1917, qui n'est pas la pandémie de 1917, parce que c'est 1918-1919, ça fait des mois, Marc-Claude, que Trump, il l'utilise et qu'on l'a corrigé. Et si tu retournes justement aux archives il y a à peine quelques mois, il y a certaines sorties où Donald Trump s'était corrigé et disait, ben, c'est 1917-1918. Il pouvait même pas admettre qu'il s'était trompé. C'était, ah ben, je vais rajouter 1918, mais je vais quand même garder le 1917. Et là, on a coupé le 1918, on est revenu à 1917. C'est tellement révélateur pour moi d'un orgueil complètement démesuré, une incapacité totale à admettre une simple erreur bête.
Oui, c'est assez particulier. Oui. On parle de lui encore demain, qu'est-ce que t'en penses?
Non, pourquoi pas?
Merci beaucoup et bonne soirée à toi, cher Raphaël.